André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la cinquième et dernière édition de la série sur l'œuvre de l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt avec sa pièce « La nuit de Valognes ». Et nos amis comédiens, bien sûr, Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Philippe Merlan, bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et Michel Lagouin, bonjour Michel.
Bonjour André, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous pour nous prodiguer vos belles lectures. Alors, par une nuit orageuse, quatre femmes se retrouvent dans le château de la duchesse de Vaubricourt. Don Juan, qui les a bafouées autrefois, sera jugé et devra réparer ses torts en épousant Angélique, filleule de la duchesse. À la surprise générale, le séducteur mythique accepte. Éric-Emmanuel Schmitt revisite le célèbre mythe de Don Juan, reprenant d'anciens traits empruntés à d'autres auteurs, en particulier à Molière. Il donne à voir un processus de réécriture et projette son héros dans une situation nouvelle qui renvoie à une quête de spiritualité moderne. On remarquera dans cette pièce l'argumentation à travers les scènes de procès, ainsi que les moyens dramaturgiques que l'auteur utilise pour faire surgir de nouvelles significations. Quatre femmes arrivent donc dans un château délabré de Normandie. Il y a la comtesse de Roche-Piquet, mademoiselle de la Tringle, Hortense de Hauteclerc, dite la religieuse, et madame Cassin. Ce sont d'anciennes victimes de Don Juan, convoquées par la duchesse de Vaubricourt pour faire le procès du séducteur. Pour châtiment, il devra épouser sa dernière victime, Angélique, filleule de la duchesse. Voici un premier extrait de la scène 6 de l'acte 1 avec Philippe, Don Juan, et Françoise, la duchesse. Un éclair traverse la scène et la déchire, aveuglant les cinq femmes en même temps d'un terrible coup de tonnerre retentit. Survient Don Juan.
Je entrais par le cimetière. La lune montrait sa face noire, un silence de chien qui hurle à la mort. Lorsque j'ai poussé la grille de fer, les chouettes ont lancé le signal de l'intrus. Les rats ont couru se cacher sous les tombes. Les vers luisants se sont mis en veilleuse. Je crois que je les avais un peu dérangés. J'étais épié par mille regards dans l'ombre. C'est si vivant, un cimetière. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine, d'anciens cœurs qui ont battu, que ce qui a été chair sans ventre sperme est redevenu terre. Étrange voyage. À faire douter de la mort ou de la vie. Je viens de voir la statue de notre trisaïeul, le comte de la Mole. Regard fixe, pose farouche, front haut, la main sur le glaive. Dans ses yeux creux s'étaient installés de charmants oiseaux, deux petits nids d'oiseaux frileux. Le voilà qui sert enfin à quelque chose. Mais j'interromps le bal.
Du tout. Vous en donnez le ton. Eh bien, Don Juan, en quoi êtes-vous grimé ?
Un vil séducteur.
C'est parfaitement réussi. Et si on ôte le masque ?
C'est encore au plus ressemblant derrière. On dirait un vrai.
Merveilleux. Quelle conscience, quel soin dans la grimace. Nous comptons sur vous pour nous tromper le plus possible.
Je n'y manquerai pas. Et vous-même et ces dames, quel est votre déguisement ? Je l'identifie mal.
Ces dames et moi, nous avons mis le masque de vos anciennes victimes.
Oh, expressément pour moi, comme c'est délicat. Vous êtes la plus attentionnée des hôtesses.
Oui, oui, Don Juan. Vos victimes. N'est-ce pas que c'est ressemblant ?
Madame est aussi une de mes victimes ? Elle est bien virulente pour une victime.
Alors, Don Juan, nous sommes ressemblants ? Dites-le.
Je ne sais pas. De mes victimes, pour l'heure, j'en ai jamais vu. Vous savez, les généraux se contentent de remporter les victoires, c'est aux ambulanciers de ramasser les cadavres.
Mais vous reconnaissez tous ces visages.
Ces masques ? Voyons. Comment cela devrait-il être, un visage de victime ? Dur, haineux, avec à la bouche le rictus amer du souvenir, et la mâchoire serrée sur la vengeance ? Je ne vois rien de tel sur ces faces-là. tout au contraire.
Y voyez-vous ?
Mais j'y vois. C'est très flatteur pour moi. J'y vois de la nostalgie au lieu de l'amertume, et sur les joues, la rose de la pudeur plus que de la colère. Je vois des seins de femmes coquettes et frémissantes qui se mettent au balcon pour mieux voir ou pour mieux être vues. Je vois... Vous êtes sûr que vous êtes aussi déguisé en victime ?
Un jeu de masque s'instaure où chacun joue son propre rôle. Don Juan esquive tous les coups et contre-attaque en s'acharnant sur la plus fragile qui éclate en sanglots. Le procès est justifié, mais en entendant le nom de sa dernière victime, Don Juan change de ton et accepte la réparation. Serait-ce une ruse ? Le procès se prépare. Don Juan s'interroge sur lui-même. Voici un extrait de l'acte 2, la scène 2. Entre Don Juan, Philippe, et son valet Sganarelle, Michel.
Eh bien, qui es-tu ? Je t'écoute.
Je suis moi, et cela me va bien. Car quand je m'examine, je me trouve toutes les raisons de m'apprécier. La nature a parfois donné plus de finesse à un visage et plus d'élégance au corps. Mais elle m'a donné à moi une physionomie qui inspire la confiance et un physique qui donne de l'attachement. Quant à l'intelligence, j'en sais plus pour être valet qu'il n'en faut, mais point trop pour souffrir de ma condition. Aucun des mystères de l'humanité ne m'est totalement inconnu, et cependant, je ne donne pas dans l'obscur et dans l'impénétrable, comme vous. Lorsque ma tête a bien travaillé, je la repose. Je ne la soumets pas à des exercices trop intensifs qui risqueraient de la déranger plus que de la satisfaire.
Ben, en somme, tout va bien.
On ne peut mieux.
Alors, Sganarelle, je ne comprends pas. Pourquoi attaches-tu tes pas à un maître aussi mauvais ? Le plus grand scélérat que la terre ait porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique.
Le ciel m'a mis sur votre route pour vous donner un peu de raison.
Ce sera donc le seul cadeau qu'il m'a fait.
Ce n'est pas négligeable. Une conscience droite et intègre à côté de soi, c'est utile. Mais quand de surcroît ce n'est pas la sienne et qu'on peut la faire taire d'un coup de pied, ce que vous faites souvent, mon maître, c'est très pratique.
Conscience droite ? Tu me fais rire, Sganarelle. Tu me parais singulièrement complaisant pour le mal que je fais. Non seulement tu ne le préviens pas, mais après t'en être repu, tu le consignes sur ton carnet.
Mon carnet ? De quel carnet ? Fouillez-moi, je n'ai pas de carnet.
Ne nie pas. On m'en a parlé. Car tu en donnes des lectures. En procurant un tel écho à mes exploits, tu en as fait plus pour ma réputation que moi-même. Tu me sers, Sganarelle, davantage qu'un simple valet. Le niras-tu ?
Sans doute ai-je moi aussi des replis à mon âme. Vous me trouvez ravi de constater que je suis plus complexe que je ne croyais moi-même. Voyez comme on peut être superficiel.
En fait, tu ne sais pas qui tu es, mais tu t'aimes. Voilà la vérité. Tu t'aimes, qui que tu sois.
Et où serait l'utilité d'être l'ennemi de soi-même ?
Nul, mais on ne choisit pas.
J'ai donc raison. Décidément, mon maître, il fait toujours bon discuter avec vous. Car ce n'est pas dans les cuisines ou les écuries que je peux dégoter des partenaires à ma hauteur. Mais maintenant, monsieur, il faut que je reprenne mes exercices. Nos bavardages font fuir les anges.
Que vois-tu, Sganarelle ?
Je vois des femmes, plein de femmes qui sont surprises. Et puis je vous vois, seul, et moi aussi, chacun de son côté.
Alors ta fumée se trompe. Elle ne sait pas que je vais me marier, prendre ma retraite de séducteur.
Ma fumée n'y croit pas.
Et toi ?
Oh, moi...
À ton avis ?
Je le crains.
Tu l'espères ?
Je le crains.
Tu ne penses pas à une ruse ?
C'est la première idée qui m'est venue. Mais lorsque l'on vous connaît, on sait que la première idée n'est jamais la bonne. Vous l'épouserez.
Tu devrais être content.
Oh, sans doute.
Eh bien...
Bah...
Alors ?
Ça ne me vient pas. Certes, je l'ai toujours souhaité, et prévu même. Je me disais... Jeunesse passera, le vice se dévissera, l'impie ne peut devenir pie, et d'autres phrases dignes d'être gravées sur une assiette. Enfin, vous épousez cette petite, et je reste inquiet. Je me demande si c'est bien elle que vous épousez.
Et qui d'autre ?
Voyez-vous, cela fait quelques semaines que je me demandais si vous n'alliez pas finir par épouser quelqu'une. C'était comme un vent nuptial qui soufflait sur nous. Bon, le choix s'arrête sur elle. Mais je crois que ce n'est pas cette femme que vous épousez. Vous faites un mariage.
Mais tu délires, Sganarelle.
Je ne crois pas. Quand je délire, vous riez.
J'ai mes raisons de l'épouser.
Alors, monsieur, ne jouez pas la comédie. Vous savez très bien que depuis plusieurs mois, Don Juan n'est plus Don Juan.
Tais-toi, puis ma nuit.
vous me souffrirez jusqu'au bout. Je suis là pour cela, votre conscience, puisque Dieu a oublié de vous en donner une à votre naissance. Voyons, vous savez très bien que, depuis plusieurs mois, je n'ai pas inscrit un seul nouveau nom sur mon carnet.
Tiens, Dieu avoue son existence.
Je le peux, puisqu'il n'a plus d'office. Aucun nouveau nom, vous dis-je. Le libertinage a cessé. La vertu règne. Don Juan sommeille.
Ma défense de France ne me pèse guère.
Est-ce que cela vous a jamais empêché de les conquérir autrefois? Combien ai-je vu de laides, de poilus, d'édentés, de ces rebuts de féminité dont la vue seule aurait calmé les ardeurs d'un puceau de 18 ans? Mais rien ne vous arrêtait lorsqu'il y avait du mal à faire.
Ah, tu exagères, Sganarelle. Ces derniers temps, il y a eu la petite Guérin, la Dumêlée, la Champêtrie, et cette servante de l'auberge des Trois Renards qui...
Dieu, erreur, monsieur. Vous avez fait croire que vous les possédiez quand il n'en était rien. Je suis un historien sérieux, moi. Je me renseigne. Vous n'êtes pas venu à bout de ces dames, et cela non pas parce qu'elles vous résistèrent. Au contraire, vous ne choisîtes jamais proie plus facile. Mais parce que vous vous êtes dérobé au dernier moment, oui, parfaitement dérobé, il y en a même une qui s'en est plainte à moi. Elles sont toutes persuadées d'être fort laides et de sentir mauvais, les pauvres créatures. C'est le monde à l'envers.
Mais...
Alors, je pose la question que vous aimez tant vous-même, mon maître. Pourquoi? Pourquoi fuir? Et pourquoi faire semblant de continuer comme avant? Pourquoi faire croire ce qui n'est plus? Et à moi, Don Juan donnant le change à son valet, on aura vraiment tout vu.
Tais-toi! N'entends-tu pas ce bruit-là? C'est elle, elle a reçu mon mot.
Oui, c'est madame votre repos qui arrive.
Disparais, vite!
Sganarelle joue le rôle de la conscience et s'étonne du mariage qui se trame, car, aux surprises, son maître se désintéresse des femmes. Au cours d'une vive discussion avec Angélique, Don Juan se défend en alléguant les faits. Certes, il l'a abandonnée, mais il l'épouse, c'est dans l'ordre. Deux conceptions de l'amour s'opposent, plaisir consommé dans l'instant ou engagement éternel. Don Juan refuse l'engagement qu'il assimile à une vaste comédie sociale jouée au nom d'un code moral qu'il récuse. Comprenant que le mariage est pour lui sans importance, Angélique tente de lui faire comprendre ce qu'est cet amour qu'il ignore et qu'elle a appris de lui sans qu'il en soit même conscient. Il éprouve de l'émotion. La duchesse, cachée, a tout entendu et annonce aux femmes l'abandon d'un procès qui n'a plus lieu d'être. Don Juan survient, vieilli, méconnaissable. Le procès aura lieu, mais il change de nature. On jugera le traître à lui-même. Sganarelle, avocat de la défense, démontre que ce changement est une ruse pour échapper au mariage. Don Juan doit s'expliquer. Un retour en arrière, semble-t-il, fait assister aux rencontres successives de Don Juan Sganarelle et du chevalier frère d'Angélique. Voici un troisième extrait de la première rencontre. Le décor du fond s'est ouvert, laissant place à une arrière-scène noire où l'on voit deux silhouettes en train de marcher et une troisième plus loin, immobile. Sganarelle est maintenant au fond de la scène, dans le passé, tenant une lanterne à la main. Soudain, pris de tremblement, il indique à son maître, Don Juan, une forme encore indistincte.
Mon Dieu, là, mon maître, une apparition.
Encore?
Ah, c'est terrible. Il pointe sa main vers nous. C'est la vengeance.
Et qu'as-tu vu cette fois-ci? Dieu ou le diable?
Là.
J'ai remarqué, Sganarelle, que selon les époques, les mystiques aperçoivent le Christ nu sur la croix ou bien couvert jusqu'au nombril. Au fond, c'est pour cela qu'on devrait vous croire, vous autres les inspirés. Vous êtes incapables d'inventer quoi que ce soit.
La statue!
Eh bien quoi, la statue?
Elle bouge!
Bah, une statue qui bouge, c'est très rare. Elle a dû sauter de son socle. Je suis content d'apprendre qu'une statue peut se mouvoir, car lorsqu'on reste trop longtemps immobile, on éprouve irrésistiblement le besoin de gestes insignifiants, qui deviennent brutalement indispensables. Se moucher, se gratter, déplacer une couille, démentir un faux pli. Hein? Donc, c'est vrai, elle tend la main, comme c'est curieux.
Ne la touchez pas, il ne faut pas.
Mais voyons, elle me tend la main.
Elle va vous brûler.
C'est si simple.
Il prend la main du jeune homme qui immédiatement abandonne son immobilité et éclate de rire. « Bravo l'ami, Vous n'êtes pas peureux.
Tu vois ce canarelle, en plus elle parle. C'est une statue très sympathique.
Bah, d'abord, c'est une statue qui bouge et qui parle. C'est pas une statue.
Et qu'est-ce ?
C'est un homme.
Mais vous êtes un homme ?
Je ne sais pas.
Bah alors, vous en êtes un ?
Mes amis, pardonnez-moi, je ne voulais pas passer pour une créature surnaturelle ou un quelconque démon. Mais je m'amusais simplement à jouer l'automate.
L'automate ? Je ne connais pas ce légume-là.
C'est une apparence d'homme. À l'intérieur, tout est faux. Il n'y a ni cœur, ni sang, ni cerveau, ni viscères, point d'organes, point de tripes, mais seulement des roues, des boulons, des poulies. Et ça ne mange que de l'huile et ça ne pense à rien. C'est entièrement mécanique.
C'est diabolique, oui.
Voilà bien, Sganarel. Il y a quelques instants, il vous prenait pour un envoyé de Dieu. Mais maintenant, vous voilà messager du diable. La théologie lui a gâté la tête au point que désormais pour lui, faire une nuance et passer du blanc au noir sans transition a été beaucoup moins sourd avant de se mêler d'être intelligent. Je suis Don Juan.
Chevalier de Chiffreville, j'ai pour défaut de préférer le vin à l'huile pour mes rouages. D'où mes plaisanteries de fin de soirée. J'aime un peu trop le vin. Voilà, le processus est étrangement itératif jusqu'au moment où le chevalier disparaît. Alors qu'un lien s'était créé qui ne relevait sans doute pas de la simple amitié. Puis, Don Juan se rend chez la petite Angélique dans sa chambre sombre, où se trouve un grand lit couvert de blanc. Angélique, surprise, laisse entrer Don Juan dans la pièce. Celui-ci, un peu raide, mal à l'aise, semble sombre et hagard. Sous son manteau, voici un quatrième extrait de l'acte 3, scène 11. Angélique, Françoise et Don Juan, Philippe.
Don Juan, à cette heure, vous m'avez fait peur. Mais pourquoi ? Vous cherchez mon frère ?
Non.
Ah ! C'est moi que vous venez voir ?
Il faut croire. Hein. D'ailleurs, où est-il, votre frère ?
Non, depuis quelques jours, il a multiplié les extravagances. Il a tenu, contre tout bon sens, à se fiancer à une fille borgne de la noblesse du voisinage.
Se fiancer ?
Oui. Et dans le même temps, il se pavane au bras d'une créature, une torche rouge qui promène toujours une belle marionnette à la main.
Fiamenta, une putain ?
Elle va toujours à moitié nue, il s'embrasse en public et traîne dans tous les lieux qui suintent la crasse et le vin. Le scandale court les rues derrière eux.
Ça ne vous fait de la peine.
Et vous ?
En quoi cela devrait-il m'affecter ?
Je vous croyais ami.
Voyons, est-ce que j'ai le temps ou l'envie d'aimer votre frère ? Et qu'a-t-il fait qui mériterait cela ?
Vous voyez si souvent.
De la ruse, ma belle, de la ruse. Un simple stratagème pour arriver à mes fins, un marchepied. Votre frère ne fut qu'un moyen.
Un moyen pour quelle fin ?
Vous, ma belle, vous, l'homme qui conduit toujours la femme, que ce soit l'épouse ou la sœur. Je ne raffole pas des mères, mais c'est vous. Le bout de mon chemin, ma jolie, c'est vous. Car depuis le premier matin, je meurs d'amour pour vous.
Je ne vous crois pas, Don Juan. Vous avez un regard. Vous me faites peur.
Non, et qu'a-t-il donc, mon regard ?
C'est comme de la haine.
C'est le désir, petite. C'est le regard du loup. Viens, je vais te tenir compagnie en attendant ton frère.
Non, je ne veux pas. D'ailleurs, je ne l'attends pas. Rentrez chez vous, je lui dirai que vous...
Oh diable, ton frère, ce n'est pas lui que je veux. Ben, ce clair, c'est bien toi. Allons, viens.
Mon Dieu. Mon Dieu !
Il s'en fout de toi, ton Dieu, et de moi, et de tout le monde. Un peu copulé comme des rats, il ne voit rien, il a les yeux crevés, il agonise perpétuellement tandis que nos peaux et nos intestins se frottent. C'est un charnier, ton Dieu, il pue, il pète l'impuissance, viens !
Il l'a fait rouler sur le lit. Il commence à faire l'amour, noir, presque complet, sur toute la scène.
Voilà comme Don Juan obtint le corps de la petite Angélique. Au matin, il prononça quelques mots tendres afin que la jeune fille pût croire qu'elle avait passé la plus belle nuit du monde.
Le chevalier revient pour se battre en duel. Ce n'est pas un acte de vengeance ou d'honneur, mais un suicide déguisé. Il se jette sur l'épée de Don Juan et mourra dans ses bras après un aveu mutuel d'amour. Transformé par cette expérience qui l'ouvre à autrui, Don Juan souhaite faire le bonheur d'Angélique. Elle refuse car c'est l'autre Don Juan qu'elle aimait, celui qui, pour elle, était le vrai. Tandis que les femmes accusent le coup, chacune trouvant à son tour sa propre vérité, Don Juan part vers une nouvelle vie.
Dites-moi, Duchesse, comment cela s'appelle-t-il lorsqu'on s'apprête à sortir, plonger dans l'inconnu, aller à la rencontre des autres ?
La naissance.
Et comment cela s'appelle-t-il lorsqu'au même moment, on a peur d'être broyé par la lumière, trahi par tous les mains, ballotté par les souffles du monde, et que l'on tremble à l'idée juste d'être une simple et haletante poussière perdue dans l'univers ?
Le courage. Bon courage, Don Juan.
La nuit de Valogne est la première pièce de l'auteur. À ce titre, elle témoigne non seulement de quelque chose d'essentiel en provenance de lui-même, mais elle hérite aussi, selon Schmitt lui-même, de ce qu'il a précédé, de rêves, de tentatives d'enthousiasme avortées, d'espoir fébrile, d'impatience, de déception et encore d'impatience. S'il déclare, s'il a beaucoup écrit avant de tracer à 29 ans d'un seul jet la nuit de Valogne, on peut dire aussi que sa mémoire a retenu de ses lectures de quoi disséminer dans son texte nombreuses réminiscences d'autres textes. Tout cela suggère une démarche de création qui est une récréation. L'auteur part du connu, Don Juan et son mythe, pour aller à l'inconnu. Cet inconnu renvoie, dans le cas de l'œuvre étudiée, à la complexité de l'être humain, et ici particulièrement de l'être masculin, miroir déformant de l'autre que lui, la femme, et du même que lui, l'homme. Mais le texte va bien au-delà des sexes et tout le jeu théâtral consiste à faire jaillir du reflet déformé de quoi enrichir notre connaissance de l'homme donjuanesque. Il rejoint au-delà de la question littéraire un questionnement existentiel général. La nuit de Valogne propose ma vision de Don Juan, de même que le libertin sous le masque de Diderot expose ma vision de Casanova. Don Juan est un être en perpétuel mouvement qui voudrait être arrêté. Il est mu par le désir et souhaiterait s'ancrer dans l'amour, mais l'équation est impossible. Réaliser ses pulsions fait vaincre la résistance de l'autre. Une fois que Don Juan a gagné, il ne lui reste plus rien, ni l'autre, ni la pulsion. Don Juan ne sait pas jouir, car il ne pense qu'à triompher. Dixit Eric Emmanuel Schmitt. Don Juan, certes toujours en mouvement, tourne en rond. À l'écoute des seules pulsions, il est condamné de perpétuelle exténuation. Sa vie d'aventure est devenue bègue et ennuyeuse. Je me suis amusé à la contrarier fortement. Eric Emmanuel Schmitt. Merci Françoise, merci Philippe, merci Michel. À très bientôt pour de nouvelles lectures. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « J'ai appris que le plaisir est fade s'il n'a le goût du mal, que la caresse toujours préfigure la gifle et le baiser ébauche la morsure. » C'est dans « La nuit de Valogne » de Eric Emmanuel Schmitt. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA. fncta-midepi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité. Joué, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.